France Inter.
Cette année, nous sommes fiers de vous présenter MacDo 2.02.4, la dernière mise à jour de vos burgers préférés. Découvrez un tout nouveau design extérieur avec ce pain plus chaud. Nos steaks hachés sont, eux, infiniment plus juteux grâce à leur dernier mode de cuisson intégrant de savoureux oignons caramélisés. Ce cheddar avec son fondant haute définition. Redécouvrez dès maintenant vos burgers préférés.
Le fondant du cheddar qui serait haute définition, mais on n'a pas pu résister. Hein. Quelle trouvaille du service marketing de McDo. Personne n'a idée de ce que peut être un fromage industriel haute définition. Bon, le géant du burger annonce des nouvelles recettes. Je sais que vous savez, le Big Mac revisité, c'est l'une des infos les plus traitées de la semaine. Des Big Mac, il s'en vend presque 200 par minute en France. Le chiffre d'affaires de Ronald dans l'Hexagone dépasse les 6 milliards. Très belle réussite, mais on a beau garder le sourire sur sa tête de clown, les temps sont durs. Plus de concurrence sur le marché, les tacos, les boulangeries. Et les résultats sont décevants à l'échelle mondiale. Les consommateurs chinois achètent moins et au Proche-Orient, effet collatéral du 7 octobre, les arches de la félicité sont boycottées. C'est quand même 10% des ventes à l'échelle de la planète. Allez, tant qu'à s'intéresser aux géants américains de la frite, ce matin, je partage un nugget trouvé dans le New York Times mercredi. Aux États-Unis, McDo fait partie des géants comme Starbucks, Costco, PepsiCo, accusés de faire travailler des enfants migrants. On en a trouvé au boulot dans des équipes de nettoyage, des usines de transformation du lait, la nuit dans des abattoirs. Certains ont eu de graves accidents du travail. Ça se passe donc chez les sous-traitants. Épinglés, ces grandes marques diligentent donc des audits. Des enquêteurs sont chargés de débusquer les mineurs parmi les salariés. C'est un progrès, mais si on creuse, ces entreprises devraient sans doute aussi s'interroger sur la pression qu'elles mettent à leurs fournisseurs et s'assurer qu'il n'y a pas que le cheddar fondant, hein, qu'il soit haute définition, mais aussi les salaires.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
On n'arrête pas l'écho. Bonjour, nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Céline Hila, la réalisatrice, Valentin Pérez, le chargé de programme, au mixage, c'est Louis Audebert, et à la console, Alexandre Chénet. L'invité de ce samedi 10 février, c'est la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. La désmicardisation, on y revient. Comment ça marche? C'est un objectif, mais combien de chemins pour y parvenir? Quelle différence entre les différentes méthodes? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Madame Vieux-Boulot est avec nous. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Notre auditrice Magali vous pose une question sur les vols dans l'entreprise.
Oui, Magali s'est fait voler son portefeuille et des tickets resto dans son sac. Elle veut savoir si la responsabilité de l'entreprise peut être engagée.
La réponse, Sandrine, vous nous l'a donnée juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat avec Leïla Aboud, la chef du bureau parisien du Financial Times. Hello Leïla.
Hello, bonjour.
Et Anne-Laure Delatte face à vous, chercheuse au CNRS, rattachée à l'université Paris-Dauphine. Salut Anne-Laure.
Bonjour Alexandra.
Cette semaine annonce des résultats 2023 de Total Energy. Vous vous y êtes intéressée. Un niveau record après une déjà excellente année 2022. Total Energy est quasiment à 20 milliards de bénéfices nets. Alors, gros débat français. Ce succès est-il indécent ou pas? Ben, on y va pour le débat.
Total qui fait le plein.
Comme tous les ans, les résultats annuels de Total Energy font beaucoup causer.
Bénéfice net record en 2023, 19,8 milliards d'euros.
Il y a une certaine ironie à constater qu'effectivement Total aligne pour la troisième année consécutive un record de bénéfices qui sont exactement alignés avec les records de température.
François Gémen, professeur à HEC, membre du GIEC.
Ces gros bénéfices, c'est une responsabilité pour l'entreprise et dans le cas de Total Energy, c'est une responsabilité de les investir dans les énergies décarbonées.
On parle de 20 milliards de bénéfices nets. Depuis la Révolution française, si une personne avait gagné 230 000 euros par jour, elle n'aurait pas atteint ce qu'a gagné Total Energy en une année.
Thomas Porte, député La France Insoumise.
C'est le symbole du capitalisme qu'on n'en veut plus. C'est-à-dire que l'accumulation de richesses avait fait sur le dos des consommateurs. Le litre de sans-plomb 98, il était à 1,30€ à l'été 2020. Il est quasiment aujourd'hui à 2€. Voilà où a margé Total.
Quand on est actionnaire, on prend des risques.
Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School.
Quand ça ne va mal, on peut perdre son placement initial. Et quand ça va bien, on peut espérer une rémunération. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les actionnaires. Après, s'ils n'en avaient pas distribué, on aurait pu dire « Ah, ils n'en distribuent pas, c'est horrible !» Parce qu'ils vont réinvestir, mais on ne sait pas dans quoi. De toute façon, quoi que fasse Total, je pense qu'on lui tombera à bras raccourcis.
C'est vrai que les résultats ont beau être très bons, c'est souvent une action qui évolue de manière un peu linéaire, qui remonte, puis il y a le dividende, puis on récompense le dividende.
Thibaut Prévé, directeur général adjoint de la société de gestion La Financière Arbevel.
D'un côté, on aime bien se dire qu'il faut faire des valeurs vertes, donc les gens ne veulent pas de Total. De l'autre, en termes de capacité d'investissement dans le renouvelable, c'est la plus importante. D'un côté, on dit que c'est très cyclique, ce qui est vrai pour le pétrole. De l'autre, c'est une société qui n'a jamais baissé son dividende.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en fait d'où viennent ces profits.
François Eckhall, ex-magistrat à la Cour des comptes et président du site Fipeco.
Total a des activités qui vont de l'extraction du pétrole ou du gaz dans des pays lointains jusqu'à, en effet, la distribution ou le raffinage en Charente-Maritime et ailleurs en France. En général, les profits de Total ne viennent justement pas de la Charente-Maritime. Ce qui explique aussi que Total paye assez peu d'impôts sur les sociétés en France.
Anne-Laure Delatte, le retour du débat sur Total. Je me tourne vers vous. On fait la photo de ce succès, de ces profits?
Bon, alors elle va aller vraiment très vite. C'est la troisième année consécutive pour Total qu'il enregistre des profits records. On était à 16 milliards, je vous parle en euros, 16 milliards en 2021, 19 milliards en 2022 et 19,9 milliards en 2023. Et donc l'entreprise en a profité pour annoncer une augmentation de dividendes de 7,1% pour ses actionnaires.
Leïla Aboud, ça vous intéresse au Financial Times, le débat français sur les profits de Total? Vous voulez ajouter quelque chose à la photo?
Oui, j'aimerais juste situer ça dans l'industrie dans laquelle Total existe. Il y a 5 oil majors, des grands groupes pétroliers. Ils font tous exactement la même chose. Des profits records cette année, et ils augmentent à la fois les dividendes et les rachats d'actions. Alors, Total, il existe dans cet écosystème. On peut ne pas aimer, mais c'est leur concurrent. Et quand ils sont en train d'essayer d'attirer les investisseurs vers leur action, ils doivent un peu s'aligner sur ce que font les autres. Le taux de rendement en dividendes des rachats d'actions de Total cette année, il est de 46%. Et Pouyanné, Patrick Pouyanné, le PDG, s'est vanté du fait que finalement, il s'est aligné sur les concurrents. Il était toujours un peu plus bas. Mais ExxonMobil, c'est le plus grand américain, il est déjà à 55%. Donc on voit qu'il y a une espèce de, il y a une concurrence un peu.
Attirer les investisseurs.
Pour attirer les investisseurs, notamment parce que beaucoup d'investisseurs veulent plus investir dans ce secteur à cause de l'ESG, à cause du climat, pour des très bonnes raisons. C'est qu'on estime qu'il faut mettre l'argent ailleurs. Mais, voilà, il y a le rendement aussi qui est très attractif.
Donc là, vous parlez des dividendes et des rachats d'actions.
C'est les deux. Si on regarde que les dividendes, on voit que la moitié de la photo. Il y a beaucoup d'argent qui est rendu en buyback, en rachat d'actions. Par exemple, juste Total, ils ont mis 7,5 milliards sur le dividende, en dollars cette fois, et 9 milliards sur le buyback, sur le rachat d'actions. Si vous voulez avoir encore plus mal, ou bien, je ne sais pas, si vous êtes actionnaire, ExxonMobil, ils sont quasiment à 18 milliards juste sur le rachat d'actions.
Le rachat d'actions. Donc, ce sont des bonnes affaires pour les investisseurs. Anne-Laure Delatte, est-ce que ça vous choque, vous, ces dividendes?
En fait, Leïla vient de nous donner un point de vue marché financier et il est complètement justifié. Maintenant, moi, je vais essayer de vous donner un point de vue à la fois des gens qui sont à la pompe, les automobilistes, et aussi les contribuables. D'un côté, en fait, pourquoi la vraie question, c'est pourquoi est-ce que Total et les majors dégagent autant de bénéfices? Est-ce qu'ils ont vraiment fait des bons investissements et donc c'est mérité? Non, en réalité, le coût d'extraction du pétrole, il n'a pas bougé. Le Brent, il est à 25 $ le baril. Maintenant, en fait, ce que fait Total, c'est que il répercute à la pompe l'augmentation du prix du pétrole sur le marché, qui est lié à la guerre en Ukraine, il faut le rappeler, et à de la volatilité depuis quelques temps. Donc, c'est ce qu'on appelle une aubaine. En fait, plus les prix du pétrole augmentent, plus Total dégage des bénéfices. Vous allez me dire, c'est pas choquant, c'est l'offre et la demande, certes, mais bon, au moins c'est clair. Après, la deuxième vraie question, il me semble, c'est celle pour les contribuables. Est-ce que Total paye des impôts sur les revenus en France?
Les profits en France.
Oui, sur les. Ouais, alors on dit revenus ou profits, pardon. Non, très peu. Alors, ils ont dégagé 19,9 milliards d'euros dans le monde de bénéfices. Or, la France, c'est à peu près un cinquième de l'activité, c'est 22% de l'activité de Total. D'accord? Donc en fait, on est un gros marché pour eux. Combien ils dégagent de profits, combien ils déclarent de profits en France? Sur 19,9 milliards dans le monde, ils en dégagent 350 millions. Même pas un milliard.
Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas d'activité d'extraction en France.
Oui, oui,
enfin, ils vendent du pétrole à la pompe.
Exactement. Voilà. Est-ce que je peux vous expliquer comment est-ce qu'ils font pour faire ça? En fait, on va appeler ça vraiment clairement, c'est de l'optimisation fiscale. C'est une organisation stratégique de la firme qui permet ça. Vous avez Total qui a toute la chaîne de valeur de l'extraction à la distribution, le raffinage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'extraction ne vend pas directement au raffinage. La filiale extraction chez Total, en fait, au lieu qu'il y ait deux grosses filiales, il y en a trois. Et la troisième, elle est située en Suisse. Très rapidement, alors vraiment, c'est super simple. L'extraction vend à la Suisse au prix de revient. Donc en fait, il n'y a pas de profit pour l'extraction. Mmh. Par contre, la Suisse vend au prix de marché à la France. Et donc, il y a très peu de profit en France, voire, en fait, ils font des pertes dans le raffinage. Et où est-ce qu'il est le profit? En Suisse. En Suisse, on paye à peine d'impôts.
Donc, Leïla Aboud, oui. Total, donc il y a deux débats que vient de nous mettre Anne-Laure de là sur la table. Il y a le débat sur la vision des dividendes et de leur utilité, et la vision, et puis aussi l'optimisation fiscale qui fait que finalement, Total réussit, mais ne contribuerait pas assez à l'économie française.
Elle a peut-être raison pour l'optimisation fiscale. Il y a beaucoup de groupes qui font ça. Alors, du coup, honnêtement, je sais pas. Sauf que je trouve que, pourquoi est-ce qu'on discute de ça? Si on replace un peu tout ça, c'est parce que chaque année en France, quand Total publie leurs résultats, en particulier depuis quelques années, on était en plein boom, ça devient un sujet de société. Moi, en tant qu'étrangère dans ce pays, ça me surprend. Parce que, c'est comme si ça focalise toutes les attentions sur un groupe, et comme s'ils ont fait quelque chose de malsain ou de dégueulasse. Gagnant de l'argent.
Et ça n'existe pas chez vous?
Ça n'existe pas dans le monde anglo-saxon, pas autant. Je pense que c'est parce qu'on a plus une culture de bourse aussi. Alors du coup, aux États-Unis, par exemple, là où j'ai grandi, tout le monde est actionnaire. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont actionnaires parce que les pensions sont capitalisées.
Les
retraites sont capitalisées. Alors du coup, ça devient presque un sport national de suivre la bourse. Alors du coup, il y a les personnalités, il y a les groupes, et on voit ça plutôt, je dis pas ludique, mais d'un œil positif. Avec Total, en France, on le tape dessus chaque année. Moi, je ne vais pas défendre Total, c'est quand même des gros pollueurs. Il y a un gros enjeu sur les investisseurs.
On va y venir aux investisseurs.
Mais je trouve sociologiquement et culturellement, le fait qu'on a ce débat chaque année, on l'a sur Total, un peu sur BNP et aussi sur LVMH. Et ça, je pense que ça relève quelque chose qui est dans le psychologie en France, de voir ça comme les profits et les retours des actionnaires comme un truc pas propre.
Ok, donc pour vous, finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, Anne-Laure Delatte, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que finalement, si les Français sont choqués par les dividendes de Total, au-delà du sujet pollution, au-delà du sujet fossile, c'est parce que en fait, ils n'y connaissent rien à la bourse, juste parce que les Français n'investissent pas en actions.
Bah non, il ne faut pas prendre les Français pour... Non, ce n'est pas psychologique ou ce n'est pas culturel. C'est simplement que là, vous avez un point de vue marché et que moi, je vous donne le point de vue contribuable et consommateur. Et encore une fois, ce n'est pas qu'on n'y connaît rien, c'est que ces dividendes, en fait, il y a la question de partage de la valeur avec les salariés et les détenteurs du capital.
Bon, je crois que les salariés de Total sont assez contents.
Très, très bien.
Oui, oui, mais il y a deux autres questions. Il y a la question de la répartition, ce que je viens de vous dire. Les actionnaires empochent le fruit de hausse de tarifs à la pompe. Et la troisième, c'est la contribution à l'économie française. Et pardon, mais ça, c'est pas psychologique. Quand vous payez 350 millions d'impôts... quand vous déclarez 350 millions... de bénéfices. C'est quoi? C'est à peine 2%.
Mais ça, c'est l'optimisation. Et c'est vrai que là, on n'a pas les éléments pour avancer sur cette optimisation.
Ah bah moi, je peux vous les donner. J'ai participé à une commission parlementaire. J'ai été auditionnée à une commission parlementaire sur ce sujet. On n'a pas les éléments. Bien sûr que si, on les a, les éléments. Les schémas fiscaux, ils sont connus par Total. Donc, c'est pas une question psychologique de se dire, en fait, ils payent pas leurs impôts et derrière, ils polluent à mort.
Bon, alors, passons à ce sujet de la santé, la stratégie des compagnies pétrolières. Est-ce que là, Leïla Aboud, la santé des majors vous choque?
Ça me choque pas. Après, oui, je suis choquée par le fait que la planète est en train de se réchauffer. On ne sait plus comment s'y prendre à cette question. si on prend le cas de Total, ils mettent deux tiers de leur CAPEX chaque année dans les investissements dans les énergies fossiles, le pétrole et le gaz. Ils mettent un tiers dans les renouvelables. Patrick Pouyanné, le PDG, quand il en parle de ça, il va vous faire un argumentaire qu'on va avoir besoin des énergies fossiles pendant encore longtemps. Est-ce que c'est pas crédible de se dire qu'on va mettre que tout sur le renouvelable? C'est le pari qu'il fait dans son industrie. Enfin, il met plus d'argent que les autres sur les renouvelables. Après,
Donc Total met toujours l'essentiel sur le fossile.
C'est les deux tiers sur le fossile et un tiers sur les renouvelables.
Et un tiers sur les renouvelables. Et donc Patrick Pouyanné, ce qu'il fait, c'est il dit laissez-moi continuer à investir dans les fossiles parce que ça me permet de mettre beaucoup d'argent sur les renouvelables.
Après, il faut pas être dupe. Enfin, il met plus d'argent sur le fossile parce que c'est plus rentable. Pour lui, il va un peu à petite dose dans les renouvelables. S'il voulait, il pouvait mettre plus, mais ça diminuerait sa rentabilité. Du coup, je vais pas défendre cette démarche, mais il a le droit de faire ce choix. C'est ça, on est dans une économie de marché, je suis désolée de le dire, mais il a le droit de faire ce choix.
En fait, Anne-Laure Delotte, ouais, c'est ça. Leïla Abboud vous dit, c'est pareil pour ce que récupèrent les actionnaires. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui.
Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne.
Après, les États peuvent taxer plus, comme vous dites. Ils peuvent.
Alors, vous savez ce que c'est une bombe climatique ? Il y en a 422 dans le monde. Une bombe climatique, ça a été identifié dans une publication scientifique l'année dernière. Ça dégage des gigatonnes de carbone. Et en fait, si elles fonctionnent, si elles naissent tous, en fait, c'est des investissements, pardon. C'est des investissements d'infrastructures. C'est de l'extraction de pétrole, de l'extraction de gaz. Si on les laisse tous émerger, on va émettre trois fois plus que ce à quoi on est autorisé avant que la planète explose. D'accord? En fait, à votre avis, Total, ils sont numéro combien dans les investisseurs, dans les propriétaires ?
Dites-nous.
Numéro 2. Le premier, c'est un Chinois, et le troisième, c'est une major saoudienne. C'est dossier du monde, et surtout une publication scientifique l'année dernière. Donc moi, ils peuvent me dire qu'ils font des énergies renouvelables, qu'ils ont une intention d'avoir un mix énergétique plus favorable. En réalité, comme vous le dites, pour eux, c'est plus rentable d'investir dans les énergies fossiles, et ils font pas semblant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont 22 bombes climatiques. Vous en retirez une de bombe climatique, vous avez une influence sur la température mondiale. Mmh. Ils en ont 22. Donc arrêtons de croire qu'ils font des efforts, en fait.
Alors ils font des petits efforts. Hein. C'est pas, je vais pas les défendre sur ce terrain.
Mais la question, c'est est-ce que les pétroliers devraient arrêter tout de suite? Est-ce que nous-mêmes, nous tous, et est-ce que le monde devrait arrêter de consommer du pétrole tout de suite?
Il faut regarder dans la glace, dans le miroir. On est tous en train de continuer à consommer comme avant, même plus. Alors du coup, on veut nos voitures, on veut prendre l'avion quand on veut. Enfin, c'est des choix compliqués. Et après, c'est très facile de taper sur les grands groupes pétroliers. Il faut se regarder dans la glace. Est-ce qu'on est prêt à changer nos propres consommations tout de suite, là, maintenant?
Il y a une demande, Anne-Laure Delatte.
Ah oui, il y a une demande d'action publique.
Il
n'y
a pas seulement l'offre, en fait, c'est ce que dit... Je me fais...
Ah oui, d'accord, pardon. Je vous disais qu'il y a une demande, justement, des gens de changer le monde, mais qu'elle n'est pas reçue. Pourquoi ? Il y a une demande en face d'énergie fossile. Attention, en fait, on n'a pas de réglementation qui permette de changer les comportements. En fait, il y a une vraie demande d'action publique, sauf que l'action publique, elle n'est pas courageuse du tout en ce moment. Il y a une solution, c'est qu'il faudrait taxer ces super profits pour notamment pouvoir financer de la transition, mais surtout arrêter qu'ils investissent dans ces bombes climatiques. Alors, pourquoi c'est pas fait ? En fait, il y a un règlement de la Commission européenne qui nous a autorisé à taxer les super profits du raffinage depuis un ou deux ans. Ça a été fait en 2022. Ça s'appelle la taxe raffinage. Et en fait, c'était au projet de loi de finances cette année, et ça a été pas du tout. Ça n'a pas été adopté sous la menace de Pouyanné, en fait, du PDG de Total. Pourquoi ? Parce que quand les parlementaires ont dit dans un amendement du projet de loi finances, on va peut-être renouveler cette loi raffinage, Pouyanné a dit alors à ce moment-là, moi, je suis pas sûre de pouvoir bloquer mes prix à la pompe comme on me le demande. Ouais. Et donc, l'État a fait à reculer.
Allez, d'un mot, Leïla Abboud, est-ce que les politiques ne sont pas assez courageux finalement ? Les entreprises jouent leur partition et les politiques n'en font pas assez.
Je pense que les États, tous les États sont pas très courageux sur ce terrain-là. Et c'est pas uniquement en taxant les super profits qu'on va arriver. Ça, c'est une question beaucoup plus vaste. Mais comment inciter et forcer, soit avec la taxation, soit avec la réglementation, les changements de comportement ? Ça, c'est une vaste question. Mais ça ne se règle pas uniquement avec de la taxe, à mon avis.
Leïla Abboud et Anne-Laure Delatte, elles ont fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
Real Decreto Ley para la ampliación
de derechos de los
trabajadores.
L'écho en VO, c'est ce moment où l'un de nos correspondants à l'étranger nous raconte l'histoire derrière un mot. Et ce matin, c'est plutôt un nom, Satoshi Nakamoto. Nous partons au Royaume-Uni.
What's the name associated with that first transaction?
The monkey is Satoshi Nakamoto.
So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you?
Yes. Some people will believe, some people won't. And to tell you the truth, I don't really care.
Extrait d'une interview de 2016 à la BBC, le chef d'entreprise australien Craig Wright déballe tout. Il est, assure-t-il, l'homme qui se cache derrière le sobriquet, the moniker, Satoshi Nakamoto. Oui, le père du Bitcoin, ça serait donc lui. Et si on ne le croit pas, I really don't care, il s'en fiche. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Cet informaticien australien est-il Satoshi Nakamoto, le pseudo de l'auteur du texte qui a donné naissance au Bitcoin en 2008? C'est ce que les juges britanniques doivent démêler. Richard, le procès vient de débuter.
Oui, devant la haute cour britannique. Il est poursuivi par un groupe de spécialistes de la crypto-monnaie qui le traite tout simplement d'imposteur. Ils veulent en quelque sorte le prendre à son propre jeu parce que depuis qu'il a affirmé être le créateur du Bitcoin, il a régulièrement mené des actions en justice contre ceux qu'il mettait en doute ou tout simplement qui voulaient travailler sur cette monnaie virtuelle. Des poursuites judiciaires qui ont coûté énormément d'argent, ne serait-ce que les coûts de procédure, et causé beaucoup de tort. Donc cette fois, c'est lui qui se retrouve devant un tribunal avec des preuves à apporter.
Le procès, Richard, il a commencé lundi dernier. Pour l'instant, Craig Wright n'a pas réussi à dissiper les doutes. Rien ne prouve formellement qu'il est bien Satoshi Nakamoto.
Non, jusqu'ici, il n'est pas bien convaincant. D'abord, il est incapable d'ouvrir le coffre-fort virtuel dans lequel se trouvent les premiers bitcoins, un peu plus d'un million, ce qui fait environ 44 milliards d'euros. Ils ont été mis là par Nakamoto, qui doit donc disposer du code très compliqué pour y accéder. Wright, visiblement, ne l'a pas. Il produit également des documents mis en cause par des experts, par exemple un texte qu'il aurait écrit avant la création du Bitcoin, mais il y fait référence au passé, comme si elle existait déjà. Ou encore un autre article qui évoque des travaux universitaires, sauf que ces travaux ont été publiés après la date où Wright est censé avoir écrit cette lettre. Et puis le texte fondateur signé Nakamoto a été rédigé sur un logiciel clairement identifié. La version donnée par Wright en utilise un autre. Pour justifier tout ça, il évoque des fusions de documents et surtout, il remet en cause les experts, dont celui choisi par son propre avocat. Wright n'en démord pas, il est bien Satoshi Nakamoto. D'ailleurs, il dit avoir choisi ce nom du fait de son amour du Japon. Et puis son défenseur affirme, si ce n'est pas lui Nakamoto, alors le vrai se serait déjà manifesté depuis longtemps. Il en faudra sans doute plus pour convaincre le juge.
En effet, Richard Place avec nous de Londres. <t'en> 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité dont n'arrête pas l'écho, c'est la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Le travail des seniors, le durcissement de l'assurance chômage, l'acte 2 de la réforme du marché du travail. On parlera des chemins que veut emprunter le gouvernement pour atteindre son objectif du plein emploi. Mais d'abord, le pouvoir d'achat. On a voulu revenir ce matin sur cette formule de Gabriel Attal. Il faut désmicardiser la France. Une promesse aux classes moyennes, celle de s'attaquer à la stagnation des bas salaires. Là encore, comment faire? Est-ce qu'il faut revoir les aides et les exonérations au niveau du SMIC? Est-ce qu'il faut, certains le font, poser la question de l'indexation du salaire minimum sur l'inflation? Le salaire minimum a progressé de 12% depuis 2021 parce qu'il suit la hausse des prix et les autres salaires sont loin d'afficher pareille augmentation. La réflexion en tout cas est enclenchée au Parlement, mais aussi chez tous ceux qui sont au SMIC, 3 millions de salariés, et chez tous ceux qui sont juste au-dessus. Alors, on sort du studio, dans le Grand Est, à Metz, notre reporter Anaël Verzo a fait les comptes avec Muriel et Cynthia, deux employés du secteur de l'habillement.
Vous, Muriel, qu'est-ce que vous faites chez Kiabi?
Moi, je suis conseillère de vente.
Depuis combien de temps?
Ça fera 34 ans cette année. Fidèle à Kiabi.
Votre salaire, il est de combien?
J'ai un contrat 16 heures. Si on recalcule mon salaire en équivalent temps plein, je suis payée à peu près 200 euros au-dessus du SMIC.
200 euros net, oui.
Non, brut.
Ah, brut. 200 euros brut au-dessus du SMIC. Alors, le SMIC a été augmenté au 1er janvier 2024. C'est la huitième augmentation depuis 2021. qui est indexé sur l'inflation. Est-ce que vous, votre salaire, Muriel, il a été indexé aussi sur l'inflation ?
Non. J'aurai une augmentation au mois de mars de 2,6%. Mais ça ne compense pas. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on descend tous vers cette échelle, ce qui en résulte un écrasement des grilles. Ça veut dire qu'un jour, on se retrouvera tous au même niveau.
Alors là, donc, vous montrez le petit tableau Excel que vous avez fait.
J'ai fait que les catégories employées. Et là, du coup, on se retrouve avec des écarts où, nouvel écart avec le niveau 1, c'est 18 centimes. Alors qu'avant, il y avait quand même un écart de 8,80 €. Ça veut dire qu'on a mis des années à monter des catégories. Et forcément, quand il y a un écrasement des grilles, bah, on est carrément déclassé. On considère plus notre travail.
Cynthia, vous êtes donc une collègue de Muriel. Voilà, vous travaillez ensemble chez Cabim, mais vous n'êtes pas sur le même poste, je crois. Vous n'êtes pas à la vente.
Ni sur le même magasin. Donc moi, j'ai un statut d'agent de maîtrise et je suis coordinatrice service.
Votre salaire, Cynthia, il est de combien ?
2 090 €.
Au 1er janvier 2020, le SMIC, il était à 1 539 € brut. Et donc au 1er janvier 2024, il est à 1 766,92 € brut.
Ça fait une augmentation de quasiment 220 €. Mon salaire sur les 4 dernières années a dû prendre entre 120 et 130 € brut, à peu près moitié moins que le SMIC. Je suis plus beaucoup devant, en fait, pour quelqu'un qui est quand même agent de maîtrise, qui a des responsabilités dans l'entreprise, bah, qui est là depuis 14 ans. Je n'ai pas le sentiment d'être, on va dire, rémunéré à la juste valeur.
Un sentiment de déclassement pour Muriel, un sentiment d'injustice pour Cynthia, qui ajoute encore qu'à la différence d'un salarié célibataire au SMIC, elles paient des impôts sur le revenu, elles n'ont pas droit à la prime d'activité et dans leur situation, elles ne touchent pas d'allocation logement. Pour les chefs d'entreprise, la smicardisation est aussi un sujet important. Certains tentent de l'éviter. Direction la Bretagne, à côté de Lorient, à Guidel, Jérôme Perminja dirige la maison Le Minor, spécialiste de la maille, 72 salariés qui fabriquent des pulls, des manteaux et des marinières.
Nous avons donc différents ateliers, du tricotage, de la coupe et de la confection. Et donc, les deux tiers de notre masse salariale sont constitués par des ouvriers polyvalents du textile.
Et alors, les salaires de vos employés ? Oui, vous avez un tableau sous les yeux.
Pour être très précis, effectivement, j'ai 56% de ma masse salariale qui a une base de rémunération au SMIC. Ensuite, j'ai 24% de mes effectifs qui sont situés sur une tranche salariale entre le SMIC et 2 000 €. Et ensuite, les 20% restants qui sont au-delà de 2 000 €.
Quand le SMIC est augmenté, est-ce que vous augmentez de la même façon les personnes qui ont un peu plus du SMIC ?
Alors évidemment, quand vous avez embauché des gens en 2021, que vous aviez embauché 100 € de plus que le SMIC de l'époque, c'est-à-dire que vous les aviez embauchés à 1 785 € quand le SMIC était à 1 685 € en 2021, et qu'aujourd'hui, la personne qui est au SMIC se retrouve à 1 916 €, en fait, évidemment, vous êtes obligé d'augmenter absolument tout le monde en proportion. Enfin, sinon, tout le monde se retrouve au SMIC, et donc il y a un vrai problème social qui se pose dans l'entreprise de reconnaissance des talents et de reconnaissance du travail. Donc oui, on est obligé d'augmenter proportionnellement tout le monde. Et ça, ça crée des charges bien supplémentaires, puisque les réductions Fillon, par exemple, qui s'appliquent sur les salaires en deçà de 1,6 fois le SMIC, ne s'appliquent plus quand vous dépassez un certain seuil. Donc vous avez en plus une explosion de vos charges patronales et de cotisations sociales qui alourdit encore plus la masse salariale. Mon coût annuel de ma masse salariale a augmenté de 91 000 € entre 2021 et 2024. 91 000 €, c'est la marge dégagée par la vente de 9 000 marinières. Bon, bah du coup, il faut qu'on produise 9 000 marinières de plus avec les mêmes ETP. ETP équivalent temps plein. Peut-être qu'il faut que les pouvoirs publics réfléchissent, s'ils choisissent que le textile est un savoir-faire français à préserver, peut-être de réduire ou de plafonner les charges patronales et sociales sur les bas salaires. Mais c'est un choix politique.
Le secteur de l'habillement n'est pas le seul touché. Les métiers avec des emplois peu qualifiés où les salaires sont un peu au-dessus du SMIC sont concernés. Et l'augmentation du salaire minimum a été si rapide ces derniers mois que certains minima de branche sont aussi passés en dessous du SMIC. Alors comment désmicardiser ?
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés.
Gabriel Attal a porté le débat dans l'hémicycle. Des députés ont entamé la réflexion sur la question de l'indexation. À gauche, François Ruffin, membre de la France Insoumise de la Commission des Affaires Sociales, considère, lui, qu'il est possible d'indexer tous les salaires sur l'inflation.
La première chose à faire, c'est sortir d'une logique qui est celle qui existe depuis 40 ans, qui considère le travail non pas comme un atout, mais comme un coût. Si c'est un coût, il s'agit de diminuer le coût du travail, le diminuer toujours, et donc on smicardise. Donc la première chose, c'est un choix. Est-ce qu'on considère que le travail est un atout ou est-ce que c'est un coût? Et ensuite, si on considère que c'est un atout, il faut lui donner de la valeur. Première chose, indexation des salaires sur l'inflation. Quand les prix augmentent de 5%, tous les salaires augmentent de 5%. Quand on lit les dividendes atteignent de nouveaux records, il y a du grain à moudre dans notre pays. Donc la question, c'est la répartition de la valeur ajoutée. Et un mot que je n'ai pas entendu dans le discours de Gabriel Attal, c'est sous-traitance. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des donneurs d'ordre qui écrasent leurs sous-traitants, qui du coup ont très peu de marge de manœuvre et qui n'ont plus qu'à répartir des miettes. Ben non, il faut demander le partage de la valeur ajoutée à la fois avec les salariés, mais aussi dans la filière, dans la chaîne de production. Et donc là, il y a besoin d'un État régulateur en la matière.
Dans la majorité, Marc Ferracci est souvent présenté comme une tête pensante de la future loi Macron 2 sur le marché du travail. Le député Renaissance avance une piste de réforme explosive, la fin de l'indexation automatique du SMIC sur l'inflation.
L'idée, ce n'est pas de désindexer le SMIC, mais peut-être de l'indexer différemment. Il y a d'autres pays dans lesquels les partenaires sociaux, au niveau interprofessionnel ou dans les branches professionnelles, décident du niveau du salaire minimum. Et ça, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Aux Pays-Bas, par exemple, le SMIC est indexé sur une moyenne des minima de branche, ce qui a cette vertu de donner au dialogue social beaucoup de poids, beaucoup d'importance dans la détermination du salaire minimum et de responsabiliser aussi les partenaires sociaux.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'indexer le SMIC sur les minima de branche ?
Ça veut dire que vous regardez la manière dont les minima de branche évoluent dans les branches qui négocient et qui augmentent leurs minima. Vous faites une moyenne qui tient compte évidemment du poids de chaque branche et vous en déduisez l'indexation du SMIC. Ça inverse au fond la logique de notre système. On a aussi besoin que les entreprises aient des marges de manœuvre par rapport aux accords de branche, pour déterminer la structure de rémunération qui leur convient le mieux.
La désmicardisation, concrètement, comment fait-on ? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
La secrétaire générale de la CFDT est l'invitée dont n'arrête pas l'écho. Bonjour Marie-Lise Léon.
Bonjour.
Comment désmicardiser ? Alors nous venons d'entendre ensemble Marc Ferracci, cet économiste qu'on dit proche d'Emmanuel Macron, député Renaissance. Il explique qu'il faudrait en finir avec l'indexation automatique du SMIC sur l'inflation pour indexer autrement. Par exemple, on pourrait donner la main, c'est ce qu'il dit, aux branches, et ça serait bon par exemple pour vous, les partenaires sociaux. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une bonne piste ou carrément une ligne rouge pour la CFDT ?
Non, je pense que là, on n'est pas... Notre point de vue, c'est effectivement faire confiance à la négociation collective, mais je pense que le problème va largement au-delà des modalités de définition d'évolution du SMIC. Aujourd'hui, on a un sujet, ça a été très bien dit dans le reportage précédemment, quand on écoute Muriel ou Cynthia, le sujet du jour, c'est la reconsidération du travail. Quelle place on donne aux compétences développées, aux évolutions de métiers, et donc plutôt que définir les modalités de définition du SMIC et du salaire minimum, c'est comment on fait en sorte que quand on est au travail, on a des vraies perspectives d'évolution et qu'on reste pas scotché au SMIC ou près du SMIC et qu'on puisse avoir une véritable reconnaissance des compétences. Je pense que on se trompe de débat si on est uniquement sur ces questions économiques. Excusez-moi, on est dans une émission économique, oui, mais moi j'ai envie de vous parler du travail.
Mais quand même, vous les entendez.
Oui,
il y a Gilbert Sette, il y a Marc Ferracci, vous entendez ces économistes qui disent qu'il faut toucher à l'indexation automatique.
Ils n'ont pas compris ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans le rapport au travail, dans les suites du Covid, l'ensemble de ce qui a pu être dit aussi au moment des retraites. On fait comme si il s'était pas passé un mouvement historique en début 2023, 14 journées de mobilisation où les gens qui étaient dans la rue ou qui nous soutenaient nous disaient on veut pouvoir parler de notre travail, on veut bien faire notre travail, on veut avoir des bonnes conditions de travail.
Et ils ne
c'est
veulent
ça
pas...
le sujet.
Oui,
c'est...
mais ils ne veulent pas donc ces gens aussi disaient on en a assez d'être juste au-dessus du
Absolument.
SMIC, on en a assez de stagner. Donc vous, Marie-Lise Léon, si vous n'êtes pas d'accord avec ces économistes qui infusent des idées dans le débat politique, c'est quoi la solution de la CFDT ? Parce que Gabriel Attal, il a dit j'aimerais une solution pour la prochaine loi de finances. Mais comment on fait pour désmicardiser si vous êtes d'accord avec l'objectif ?
smicardiser, c'est reconnaître les compétences, c'est donc
c'est payer plus, c'est ça que vous êtes en train de dire.
C'est reconnaître le travail. C'est extrêmement bien dit par les salariés de Kiabi qui témoignaient tout à l'heure. C'est que elles disent, ça fait 14 ans que je suis dans cette entreprise, j'ai des responsabilités, mon travail évolue. Kiabi est une chaîne qui a mis en place la seconde main. Quand on est vendeur de textile, ça veut dire qu'il faut des nouvelles compétences. Ça veut dire qu'il faut être capable de prendre des vêtements d'occasion, les estimer et définir un nouveau prix. Ça, c'est une nouvelle compétence doit être reconnue.
Mais vous avez entendu aussi ce chef d'entreprise qui est apparemment bienveillant et qui dit « moi, j'essaye de faire progresser tous mes salaires, mais il y a un sujet de cotisation. » Est-ce que, par exemple, il faut envisager d'abaisser, d'alléger des cotisations patronales pour pouvoir faire remonter les salaires, c'est ça le sujet.
Les cotisations qui sont aujourd'hui autour du SMIC, il y en a quasiment plus. C'est-à-dire qu'on est dans des politiques d'exonération de cotisations. Et là, on touche un autre sujet qui est la question des aides aux entreprises, soit des aides directes, soit des exonérations de cotisations, et de la question de l'évaluation. Qu'est-ce que ces politiques publiques ont produit en termes d'efficacité, des exonérations de cotisations qui étaient faites pour l'emploi, qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est qu'on a plutôt créé des trappes à bas salaire plutôt que de permettre d'avoir des véritables évolutions. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut tout remettre à plat. Il y a d'ailleurs une mission de deux économistes qui travaillent sur ces questions. Et je pense que la priorité des priorités, aujourd'hui, début 2024, c'est le travail. Mmh. Comment on fait en sorte de reconsidérer le travail et comment on parle du travail concret que les salariés et les agents des fonctions publiques font au quotidien.
Alors, autre sujet au sujet du travail, c'est l'autre objectif de ce gouvernement, c'est le plein emploi en 2027. Vous, avec l'ensemble des partenaires sociaux, vous êtes en pleine négociation sur l'emploi des seniors. On sait que le taux d'emploi des seniors est plus faible chez nous que chez nos voisins. Cette semaine, et j'en reviens aux cotisations, les patrons de la CPME vous ont dit, on voudrait une réduction des cotisations si on embauche un senior au chômage. C'est le retour du CDI senior. Est-ce que ça, c'est une piste?
Comme vous dites, c'est le retour du CDI senior, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a déjà été, proposé, qui n'a pas été adopté, et on est encore dans les vieilles recettes. On est en 2024, le rapport au travail évolue énormément, la centralité du travail a évolué, et on est encore sur ces vieilles recettes de coût du travail, plutôt que d'être sur la question de la richesse, des compétences que peuvent développer les salariés. Donc, nous, de notre point de vue, la question, elle se pose pas en ces termes. La question, elle se pose, comment on fait en sorte que pour les seniors, on les garde dans les entreprises.
Jusqu'à 64
jusqu'à
ans.
Jusqu'à l'âge auquel ils peuvent aspirer à partir en retraite. Et quand ils sont, sont pas en emploi, comment on leur permet plus facilement de revenir dans le marché du travail? Une personne senior au chômage passe deux fois plus de temps au chômage pour retourner à l'emploi. Donc on est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et là, plutôt que de demander des exonérations de cotisations, les employeurs, ils doivent se dire comment je fais pour garder ces seniors. Les seniors, et comment je fais en sorte que les personnes puissent, jusqu'à leur retraite, rester en emploi. Un senior n'a quasiment plus, à partir d'un certain âge, ses salariés n'ont quasiment plus accès à la formation professionnelle. Après, c'est facile de dire qu'ils ne sont plus adaptés au marché de l'emploi. Donc, il y a un effort à faire en termes de formation, un effort à faire en termes d'aménagement des conditions de travail, puisque une des raisons pour lesquelles non plus les seniors ne sont plus en emploi, c'est qu'ils sont cassés par le travail, en invalidité, en incapacité. Et donc, c'est faire de la prévention et puis faire en sorte que les entreprises, elles jouent le jeu, qu'elles gardent ces personnes, qu'elles leur permettent d'aller jusqu'à la retraite.
En tout cas, Marie-Lise Léon, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions sur les seniors au chômage. Ceux qui sont à l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, vont basculer, devraient basculer au RSA. Bruno Le Maire lui dit, il faut penser à réduire la durée d'indemnisation des seniors au chômage. Votre homologue de la CGT, Sophie Binet, elle dénonce une guerre aux seniors. Est-ce que c'est ce que fait l'exécutif?
Je qualifierais pas comme ça. Je pense que l'exécutif n'a qu'une chose derrière la question du plein emploi. C'est d'abord un enjeu budgétaire. Et donc, ils vont chercher de l'argent partout où il y en a, en se disant que les personnes au chômage, les personnes qui sont à l'ASS, les personnes qui sont RSA, quelque part, elles sont responsables de leur situation. Et donc, si elles veulent retourner à l'emploi, elles le peuvent. Et donc, c'est, je pense, une vision totalement
donc pour
opposée
vous, là,
à la nôtre.
Là, la conjoncture donc, qui se dégrade, en effet, l'équation budgétaire. Ouais. On a un problème budgétaire.
Oui, on a un problème budgétaire, mais... Dans ce cas-là, quand Gabriel Attal a dit je n'ai pas de tabou, tous les sujets doivent être sur la table, je lui dis chiche, faisons une réforme fiscale. Pourquoi
donc
on est toujours à taper sur les plus précaires, les plus en difficulté? Il y a un moment, il va falloir pouvoir se dire, au-delà de diminuer les dépenses, quelles sont les nouvelles recettes possibles?
Donc augmenter les impôts, c'est ce que demande la CFDT?
Ça peut être comment on remet à plat la question de l'impôt. On est sur une question profondément démocratique. Aujourd'hui, l'enjeu du consentement à l'impôt est de dire... Chacun peut contribuer à l'effort pour des raisons de solidarité nationale et de financement des services publics. Mmh. Je pense que c'est extrêmement important que tous les contributeurs aient le sentiment que chacun y contribue à sa juste valeur.
Marie...
Et ça, globalement, c'est pas tout à fait le sentiment que les Français ont.
Marie-Lise Léon, vous avez dit que vous étiez en désaccord avec la philosophie incitée pour retourner au travail depuis 2017. Mmh. Et malgré le combat unitaire avec d'autres organisations syndicales, vous n'avez pas réussi à empêcher la réforme de l'assurance chômage, pas réussi à empêcher la réforme des retraites. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous arriverez à peser sur le reste du quinquennat ?
Bah, parce que je suis syndicaliste et que ça fait partie de mon moteur. Après, la question n'est pas d'être opposé à tout. Et c'est d'abord d'être force de proposition. Donc quand je vous dis aujourd'hui désmicardiser le travail et permettre à des gens d'avoir des évolutions, aux salariés, aux agents des fonctions publiques, je ne viens pas juste critiquer ce qui est proposé. Moi, je dis... Le sujet, c'est la question du travail, reconsidérer le travail, négocier les classifications. Il a été question du tassement des grilles. Et donc, comment on fait en sorte que les branches professionnelles, elles jouent le jeu de la négociation? Et nous, on a des propositions concrètes. Pour celles qui ne jouent pas le jeu de la négociation, plus d'exonération de cotises.
Deux questions d'actualité, parce que le temps avance. Une question d'actualité sur la SNCF. Une grève est annoncée pour le week-end prochain. Le patron de la SNCF a fait des propositions pour éviter la grève pendant les vacances scolaires. La CFDT cheminot, est-ce qu'elle va lever le préavis ?
C'est en cours de discussion, donc je ne vais pas vous répondre là tout de suite. On avait, nous, eu des exigences en 2022 pour le respect d'un accord et des embauches, des évolutions de carrière, comme quoi ce n'est pas un sujet nouveau. Donc il y a eu des discussions jusqu'à hier. Et,
voilà, ça se décide quand ?
Ça se décide d'ici le début de la semaine prochaine.
D'ici le début de la semaine prochaine.
Avant le week-end prochain.
Oui, c'est ça. Le début des vacances pour la zone C, c'est aujourd'hui. Le week-end prochain, c'est le... C'est en effet
le chassé croisé.
La dernière question, cette semaine, il y a quelques jours, vous regrettiez de ne pas avoir d'interlocuteur au logement.
Oui.
Guillaume Kasbarian, l'homme de la loi anti-squat, a été nommé. Vous en pensez quoi ?
Je ne commente pas les castings. Je ferai juste le commentaire que la loi anti-squat n'a pas été une réussite de notre point de vue. Était plutôt dangereuse. Donc le message est clair, c'est qu'avec des associations dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre dans lequel la CFDT est très active, on est opposé à la réforme de la loi SRU et ça sera le premier message qui lui sera adressé.
Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Magali s'est fait voler son portefeuille et des tickets resto qui étaient dans son sac, posés dans son bureau. Son employeur lui explique qu'il n'est pas responsable des vols dans l'entreprise. Peut-il se défausser aussi vite, vous demande-t-elle ?
Alors, l'employeur est considéré comme le dépositaire des objets personnels de ses salariés. Ça, c'est le grand principe. L'entreprise doit mettre en place des mesures pour protéger vos biens et éviter qu'ils ne soient dérobés. Elle peut, par exemple, prévoir des tiroirs ou des casiers fermés à clé. Et tout dépend, évidemment, des circonstances. Magali, si vous avez laissé votre sac sans surveillance, la responsabilité de l'employeur sera plus difficile à démontrer. En revanche, dans le cas où les salariés doivent se changer et porter des vêtements équipements spécifiques. Des vestiaires avec des armoires individuelles doivent obligatoirement être prévus pour leurs effets personnels. À défaut, la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Sauf s'il peut prouver que le salarié a commis l'erreur de laisser un casier ouvert ou qu'une situation de force majeure a par exemple poussé tout le monde à quitter précipitamment les locaux. La direction n'a pas le droit de mettre une clause de non-responsabilité dans le règlement intérieur, mais elle peut l'inscrire sur des tableaux d'affichage ou éventuellement le spécifier dans le contrat de travail. Ce qu'il faut retenir, Magali, c'est qu'un vol peut toujours donner lieu à une indemnisation, mais ce n'est pas automatique et c'est au juge de trancher le litige.
Et que se passe-t-il, Sandrine, s'il s'agit d'un vol entre collègues? Est-ce que l'entreprise peut se retourner contre l'auteur du délit?
Oui, d'ailleurs, le collègue indélicat risque gros. La sanction disciplinaire peut aller jusqu'au licenciement. Il peut écoper d'une condamnation pénale et dans certains cas être obligé de vous dédommager. La nature du vol détermine la gravité de la sanction. Vous dérober votre carte bleue, Magali, ce n'est pas la même chose que de consommer des viennoiseries dans une boulangerie ou de piquer la carte carburant de la boîte pour des trajets perso. Ce sont des exemples réels, Alexandra. Les salariés concernés n'ont pas été licenciés.
Et Sandrine, quand même, toute la difficulté, ça va être d'avoir la preuve.
Bien sûr, un employeur ne peut pas vous piéger ou vous filmer en train de travailler à votre insu. Il doit vous prévenir, à moins que la vidéo concerne la surveillance des locaux, comme un entrepôt ou la caisse d'une pharmacie. Là, c'est tant pis pour le salarié voleur, ça peut être retenu contre lui. En principe, les preuves obtenues de manière déloyale ne sont pas recevables. En principe, car le 22 décembre dernier, la Cour de cassation a pour la première fois admis qu'un enregistrement clandestin pouvait, sous condition, incriminer un salarié. C'est un sacré changement, la jurisprudence évolue, la sécurité des entreprises aussi, même si pour vous, Magali, elle n'est pas encore tout à fait au point.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous même jour, même heure la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver en podcast, réécouter l'interview, le débat, les chroniques, ça se passe sur la page internet de l'émission. Et puis je vous dis encore que juste après le journal, on aura tout vu, l'émission de Christine Masson et Laurent Delmas. Ce samedi, c'est une carte blanche à André Manoukian.